continuons notre étude de l'Apocalypse au chapitre 20. Nous avons terminé hier le chapitre 19. Nous arrivons au chapitre 20, dont nous lirons les 10 premiers versets pour commencer. Apocalypse, chapitre 20, verset 1er. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point le pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Amen. Le temps arrive ici d'une action autoritaire sur celui qui est désigné de quatre manières: le dragon, le serpent ancien, le diable et Satan. Le dragon, en ce qu'il s'efforçait d'engloutir la femme du chapitre 12, l'enfant qui naissait d'elle, d'engloutir l'Église et de dévorer les témoins de Jésus. Il cherche à dévorer, à engloutir, et c'est pour cela qu'il est désigné d'abord le dragon, puis le serpent ancien. Le serpent ancien, cela signifie le grand destructeur, s'ingéniant à provoquer les convoitises des hommes pour leur chute. Le serpent ancien est le grand séducteur, le grand séducteur. Puis le diable, c'est-à-dire le calomniateur, celui qui a calomnié Dieu d'abord, il a calomnié Dieu auprès d'Ève, et il est l'accusateur des frères. Il s'est toujours fait l'accusateur des frères. Puis, ajoutons à cela ce que Jésus a dit de lui, le père du mensonge. Du père du mensonge. Il parle de son propre faux. Et, chers amis, c'est toujours une parole qui m'a arrêté, ça, qui m'a alerté même, chaque fois que je la vois, il parle de son propre fond. Et il ne faut pas que nous, nous parlions de notre propre fond. Ce n'est pas de notre fond que nous allons retirer la vérité, que nous allons retirer les paroles, les pensées et qui peuvent faire du bien autour de nous, qui peuvent à nous-mêmes nous faire du bien et faire du bien autour de nous. Nous ne devons pas, nous n'avons pas à parler de notre propre fond. Nous parlons par l'Esprit de Dieu. Chrétiens que nous sommes, enfants de Dieu, nous ne pouvons et ne devons parler que par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il nous est bien recommandé d'être sobres en parole. Celui qui parle beaucoup, par conséquent qui arrive à parler de son propre fond, il ne manque pas de péché, dit le livre des Proverbes. Ça ne rate pas. Il faut que nous parlions toujours conduits par le Saint-Esprit. Et si nous le faisons, chers amis, mais quelle richesse! Mais quel fruit! C'est extraordinaire, hein. Quand nous sommes, par exemple, devant des personnes que le Seigneur a fait avancer vers nous, ces personnes ont en elles-mêmes des difficultés, des tourments, des problèmes, et nous avons à leur apporter la consolation du Seigneur et la direction du Seigneur. Vers quoi ? Vers le crucifié. Vers celui qui a expié le péché de tout homme et de toute femme de foi, et pour faire cela. Bien sûr, en toute personne, il y a des réticences, il y a des résistances, il y a des obstacles, en toute personne non convertie, il y a cela. Et comment allons-nous franchir cela pour arriver à trouver le centre de la personne où là nous pourrons introduire la parole de Dieu, tout simplement si nous avons des paroles de vérité inspirées par l'Esprit, qui seront aussi des paroles d'amour, et alors là nous apporterons la parole au fond même de la personne. Les personnes les plus dures peuvent être touchées ainsi et ne seront touchées qu'ainsi. Donc le diable, lui, il est père du mensonge, il parle de son propre fond. Et on ne peut pas, dans ces conditions-là, proférer autre chose que le mensonge. Et puis enfin, il est appelé Satan. Satan, c'est l'adversaire qui s'oppose à Dieu constamment et au dessein de Dieu. Voilà donc l'ennemi bien qualifié. Dragon qui dévore, le serpent qui séduit, le diable qui calomnie et qui ment, et Satan qui se fait l'adversaire de toujours. Soudain, un ange survient, et il a la puissance de se saisir du dragon, du serpent ancien, du diable, de Satan. Il le lie avec une grande chaîne et le jette dans l'abîme, où il est enfermé pour 1000 ans. L'abîme désigne le séjour des morts. Ça n'est pas du tout la même chose que l'étang ardent de feu et de soufre. Faut pas confondre, ce sont deux lieux différents. Dans l'étang ardent de feu et de soufre, viennent d'être jetés vivants, nous l'avons lu au chapitre 19, l'Antichrist et le faux prophète. Et de cet étang de feu, on ne sort jamais. On n'en sort plus. C'est fini. On n'en sort jamais. Et le séjour des morts lui-même, quand on n'aura plus besoin de lui, que le dernier ennemi, la mort, aura été détruite, le séjour des morts sera jeté lui-même dans l'étang de feu. Alors, du séjour des morts, là, le diable pourrait sortir. Mais si on l'avait jeté dans l'étang ardent de feu, il n'aurait pas pu être délivré, il n'aurait pas pu sortir. Or, nous allons voir que l'on a encore besoin de lui pour un peu de temps.
Ça, c'est quelque chose qui a souvent déconcerté les lecteurs de l'Apocalypse. Mais plusieurs ont dit tout de suite dans leur spontanéité, n'est-ce pas, dans leur petit bon cœur. Mais pourquoi pas le laisser enfermé? Du moment qu'il est enfermé, laissons-le là. Et que nous ne connaissons pas toute l'étendue des desseins de Dieu. Il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc c'est dans l'abîme qu'il est jeté, non pas dans l'étang de feu. Le diable va donc être délivré à l'issue des 1000 années, de 1000 années de sa détention. Car, et nous avons là une raison bien apparente à cette décision que Dieu a prise de le délivrer au bout de 1000 ans, c'est que il aura encore à éprouver le cœur des hommes du millénium. Il est la puissance du mal, et cette puissance du mal, c'est elle qui peut éprouver le cœur des hommes. Selon les versets 7 à 9 que nous avons lus. Après quoi, lui aussi sera jeté dans les temps de feu et de soufre, selon le verset 10. Et dans ce passage, nous avons alors le message concernant le millénium. Pendant 1000 ans, donc, Satan est enfermé dans l'abîme. Et que se passe-t-il pendant ces 1000 ans? Eh bien, pendant ces 1000 ans, le Christ règne sur la terre rénovée par ce que le texte grec du Nouveau Testament appelle la palingénésia. Palingénésia, ce sont deux mots grecs accolés, un préfixe et un mot, et qui signifie palin, nouvelle, génésia, engendrement. Nouvel engendrement. Il y a donc pour la terre un nouvel engendrement. Nous allons voir l'endroit où se trouve ce mot. C'est dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 19. Chapitre 19, verset 28. Je vous le dis en vérité. C'est Jésus qui parle, n'est-ce pas? Je vous le dis en vérité. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, alors, cette expression, au renouvellement de toutes choses, est tout simplement la traduction de palingénésia. C'est-à-dire, lors de la palingénésia, du nouvel engendrement, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Encore une parole un peu mystérieuse, quoiqu'il soit possible de la sonder, mais une parole par laquelle le Seigneur nous avertit chaque fois que nous lisons ça, ou que l'Esprit nous le rappelle. Nous sommes avertis, c'est une parole d'avertissement de Dieu. Il faut, nous l'avons déjà dit, et j'insiste toujours là-dessus, ne jamais laisser de côté les avertissements que Dieu nous donne pour notre marche. Alors donc, pendant les 1000 ans, le Christ va régner sur la terre rénovée par la palingénésia. Quand le Seigneur va descendre, ce que nous allons voir bientôt, nous avons déjà vu le chapitre 19, la venue du Seigneur sur un cheval blanc. Mais là, nous allons voir encore maintenant des textes qui vont nous parler de ce retour. Eh bien, lorsque le Seigneur, donc, va descendre, la guerre d'Armageddon bat son plein sur toute la Palestine. Et, n'oublions pas que Jérusalem, la ville, est prise. La ville est prise. Ça, c'est dans Zacharie 14. Nous l'avons vu, tout ça. La ville est prise. C'est là que la montagne des oliviers se fend par le milieu, une partie recule vers le nord, l'autre recule vers le midi, il s'ouvre une grande vallée, et c'est par là qu'une moitié de la population peut s'enfuir, peut partir, quitter la ville. Je vous ai dit que cette circonstance ne peut se produire que par le fait qu'il y a là le reste d'Israël qui s'est converti à Jésus-Christ, une fraction tardive de l'Église. Ils ne sont pas ressuscités, mais ils sont là, ils sont en pleine foi, en pleine sanctification même, et c'est cette fraction qui accueille le Seigneur sur la terre. Alors, le Seigneur revient, mais la terre... Il ne faut pas oublier qu'avec le chapitre 16 de l'Apocalypse, nous avons vu que vraiment la terre a subi un tremblement de terre comme il n'y en a jamais eu, et que des bouleversements ont été produits. La terre est un champ de ruines. La terre est un champ de ruines. Nous avons différents passages qui nous le montrent. On peut par exemple penser au chapitre 2 du livre d'Ésaïe. La terre est ruinée, c'est un champ de ruines. Le feu a fait des ravages. Imaginez-vous par exemple une grande ville comme, peu importe, Paris ou autre, et qui soit secouée, n'est-ce pas ? Qu'un tremblement de terre même, dont un tremblement de terre déchirerait le sol, eh bien alors là, toutes les canalisations, tous les réservoirs, tout ça, n'est-ce pas, serait brisé, éventré, et alors il y aurait des matières inflammables, il y aurait tout ce qu'il faut, n'est-ce pas, pour y mettre le feu. Alors, ça s'est produit d'ailleurs en Amérique. À l'occasion d'un tremblement de terre, une ville qui tout entière se met à flamber. Alors, la terre sera un champ de ruines. Et le Seigneur, ce sera son premier acte, va rénover cette terre. Il va donc procéder à la palingénésia, au nouvel engendrement de la terre, pour le règne de 1000 ans. Et la terre va être une sorte de paradis, va revenir, si vous voulez, à l'état où elle était avant la chute de l'homme. Et pourquoi faut-il cela ? Vous me direz, c'est parce que le Seigneur va pas régner 1000 ans sur un champ de ruines. Hein, bon. Et puis il va pas utiliser les engins humains pour rétablir tout, pour rétablir un cadre de vie convenable. Non, certes pas. Il n'a pas besoin de ça. Il a la puissance créatrice. Mais surtout, c'est qu'il faut que, puisqu'à ce moment, la patience de Dieu prend fin, qu'il ne sera plus possible d'accorder au péché un temps de patience pour qu'il puisse y avoir repentance. C'est fini, le péché sera sanctionné, ça va être immédiatement, tout pécheur sera retranché immédiatement, et ce sera le règne par la verge de fer. Mais un règne excellent, magnifique, mais tout de même par la verge de fer. Alors, il faut, puisque le péché, à ce moment-là, ne bénéficie plus de patience, de la patience de Dieu, elle est à son terme, c'est fini, il n'y a plus de patience de Dieu. C'est la justice qui doit opérer immédiatement si un homme est trouvé encore travaillé par le péché. Hein, si à 100 ans un homme est pécheur, eh bien il mourra. à 100 ans, c'est-à-dire même un homme qui, à 100 ans, il sera jeune encore, hein, il mourra. Et il faut donc que la terre retrouve l'état où elle était lorsqu'elle est sortie des mains du Créateur. Il faut qu'elle retrouve, sans quoi tout se terminerait sur la terre par une défaite de Dieu. N'est pas possible. Enfin, pendant, encore maintenant, les hommes peuvent avoir l'impression que Dieu est absent, que même ils disent que Dieu est mort. Enfin, il y a une théologie du Dieu mort. Hein? Dieu est mort, il n'agit pas, il ne se fait plus rien, n'est-ce pas, ou Dieu n'est plus capable de faire quelque chose, n'est-ce pas, voilà, ou Dieu a abandonné son œuvre. Mais et cela, c'est par une mauvaise optique. Le monde ne se rend pas compte que c'est pour lui ménager le temps de la repentance et pour l'inviter à la repentance et par conséquent à entrer dans la voie du salut. Alors là, n'est-ce pas, le péché, ne pouvant plus bénéficier de la patience, alors il faut que la terre soit rénovée, que tout se termine sur la victoire de Dieu. Et le règne de 1000 ans de Christ sera non seulement un règne préparatoire à l'éternité, un règne intermédiaire, mais aussi un règne dans lequel la victoire de Dieu se manifestera, éclatera. Voilà pourquoi il faut que la terre soit rénovée. Le chapitre 20 que nous avons lu en partie mentionne 6 fois cette durée de 1000 ans. Cependant, qu'elle ne figure pas ailleurs. Je dis ça parce que ça alerte beaucoup de gens, cela, de commentateurs, d'auteurs, ils sont alertés parce que les 1000 ans ne sont explicitement cités que là, 6 fois dans ce passage. C'est pourquoi, donc, certaines interprétations écartent l'idée du règne de 1000 ans et ne retiennent pas le sens réel et exact de cette expression. Alors, cela a engendré un grand débat tout au long des siècles de l'Église. Et ce débat nous parvient encore maintenant. Il y a des gens qui sont pour le millénium, qui disent 1000 ans, c'est 1000 ans, le Christ règnera sur cette terre pendant une durée exacte de 1000 années. D'autres disent, mais non, c'est un nombre évocateur. Évocateur de quoi? On ne me l'a jamais dit. Il spiritualise les choses. Alors, je ne peux pas vous dire comment ils arrangent leur doctrine, mais c'est assez complexe. De tout sens, ils suppriment ce règne intermédiaire de 1000 ans. Ils le suppriment, ils n'en veulent pas, pour raison d'abord que c'est trop peu pour eux, que les 1000 ans ne soient cités que là, dans ce chapitre 20 de l'Apocalypse. Et alors, nous avons eu donc des gens qui se sont cantonnés dans l'opposition à la doctrine du millénium, et puis d'autres, au contraire, qui la soutiennent. Nous sommes bien sûr, tout à fait acquis à cette doctrine des 1000 ans, parce que nous ne voulons pas interpréter la Bible en spiritualisant qui ne soit pas juste. Hein. Nous voulons rester attachés au texte. Alors, j'ai ici, par exemple, des petits ouvrages qui sont assez récents. Il y en a un qui s'intitule « Le règne de 1000 ans sur la terre » et qui contient des articles de 4 auteurs, Lamorte, André Lamorte, qui fut, vous le savez, mon ami, Rav Chalice, Eric Soer et Brian Tedford. Brian Tedford qui vit toujours. Il est à Aix-en-Provence en ce moment. Voilà. Et alors là, il y a une argumentation dans ce petit livre en faveur du règne de Milan. Et puis il y a un autre livre qui est bien aussi, dû à deux auteurs américains, Charles Riri et Homer Penn. C'est bien, c'est alors un ouvrage qui étudie dans un sens favorable la doctrine du millénium. Si quelquefois vous étiez intéressé plus particulièrement par la doctrine du millénium, vous pourriez choisir ce livre-là. Là, ici, c'est le livre, si vous voulez, du débat. Débat, n'est-ce pas, mais du débat soutient lui aussi, n'est-ce pas, la doctrine du millénium. Alors, ceux qui sont contraires au millénium, on les appelle des amillénaristes. Le A devant, c'est le A latin, le A privatif. Hein. Ils ne veulent pas du millénium. Mais nous sommes tout à fait acquis à cette doctrine, bien entendu. Et nous nous en réjouissons. D'ailleurs, il y a une chose que les amillénaristes, les opposants, ne considèrent pas. C'est que si, effectivement, la durée de 1000 ans n'est indiquée que dans le chapitre 20 de l'Apocalypse, par contre, il y a tout de même un autre texte qui est à voir et qui nous montre bien un règne, la place d'un règne intermédiaire, transitoire, nécessaire entre l'économie actuelle et l'éternité. N'est-ce pas ? Nous avons vu qu'il y a d'ailleurs trois expressions. Ça montre bien cela, n'est-ce pas ? La place que prend le règne de Milan, le règne intermédiaire. Il y a l'expression « ce siècle-ci », employé le Seigneur Jésus, c'est-à-dire le temps actuel, l'histoire encore en cours du monde, n'est-ce pas, qui va bientôt prendre fin. Alors, « ce siècle-ci », puis « le siècle à venir ». Le siècle à venir. Le siècle à venir, c'est tout de même un temps limité. C'est un siècle pas de 100 ans. Le mot siècle est à comprendre comme une durée. Simplement une durée. Donc, le siècle à venir, et puis, au siècle des siècles, superlatif, qui, lui désigne l'éternité. Vous voyez, donc c'est très net, n'est-ce pas? Ce siècle-ci, le siècle à venir, et au siècle des siècles. Et puis, vous avez un passage dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Nous lirons 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne, c'est-à-dire que Jésus règne, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Et lorsque toute chose lui auront été soumises, à Christ lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Voyez-vous, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Il y a donc un travail, une œuvre intermédiaire entre le temps actuel qui va prendre fin, ce siècle-ci, et l'éternité. On ne peut pas passer directement de ce temps-ci à l'éternité. Une étude plus élargie de la question dans toute la Bible nous confirmerait très bien dans cette pensée. On ne peut pas la faire maintenant, mais on ne peut pas. C'est absolument impensable, impossible. Alors, les opposants, les amillénaristes, je ne sais pas moi, ils n'ont pas réfléchi à cela. C'est impossible, on ne peut pas passer directement de cette économie à l'éternité. C'est pas possible. Il faut ce règne intermédiaire. Et vous voyez, pendant ce règne, n'est-ce pas, le Christ va mettre de l'ordre. Et quand il aura mis de l'ordre, que toute autorité, toute domination auront été jugulés, alors le dernier ennemi, il n'aura plus besoin, on n'aura plus besoin de la mort. Pendant le millénium, on a encore besoin de la mort. On en a encore besoin. Hein, parce que s'il y a un pécheur, eh bien, il est frappé de mort. Alors, la mort, on n'en aura plus besoin à la fin du millénium, et on la jette, on la détruit, c'est fini, il n'y a plus de mort. Alors là, on arrive à la grande réalisation des perspectives eschatologiques que l'on voit déjà dans le livre d'Ésaïe. Le Seigneur essuie toute larme, le Seigneur ôte la couverture qui couvre le monde, la mort, il détruit la mort pour toujours. Alors là, c'est fini, on entre dans l'éternité. Mais passer actuellement, supposer que la parousie intervienne, hein, à la suite d'ailleurs des jugements, des coupes que nous avons vues, eh bien, immédiatement entrer dans l'éternité, supprimer la mort, c'est pas possible. C'est pas possible. Remarquez ceci, c'est que quand des grands événements se sont produits, il y a toujours eu un temps intermédiaire. Et ce temps a été souvent marqué par le nombre 40. Même le Christ, avant de remonter, est resté 40 jours. Avant d'entrer dans son ministère, il y a aussi 40 jours, hein, dans le désert. Vous voyez, il y a toujours quelque chose d'intermédiaire, de préparatoire. Et là, il s'agit de 1000 ans. Se refuser à accepter ce règne intermédiaire et transitoire équivaut à amputer la révélation des phases finales du plan de Dieu, et alors tout se trouve bouleversé dans la Bible. Tout est bouleversé. On ne s'y reconnaît plus. Et on est obligé d'adopter alors certains ajustements de doctrine qui sont tout à fait artificiels. Tout se trouve bouleversé, puisque les promesses faites à Israël perdent leur réalité. Et alors ces promesses, eh bien, on est obligé de dire, elles s'accomplissent dans le temps de l'Église. C'est l'Église qui les accomplit. Relisons l'Ancien Testament et voyons, n'est-ce pas, les promesses formelles. Absolument impossible. Il faut qu'il y ait le temps où s'accomplissent littéralement ces promesses. Le millénium sera donc l'accomplissement le plus immédiat des prophéties de l'Ancien Testament concernant le règne du Messie. Ah, le Messie est là, l'Éternel est au milieu de toi. L'Éternel est là, il est là. C'est l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament, ainsi d'ailleurs que l'accomplissement de Romains 8, versets 19 à 24, où nous voyons que la création tout entière soupire après la manifestation des fils de Dieu, car elle aussi, cette création, les arbres, comme on le disait hier, les parties vivantes de la biosphère, du cadre de vie de l'homme, de la terre, ces parties qui sont dépourvues du pouvoir de la pensée, n'est-ce pas? Mais cependant, elles aspirent, elles soupirent, elles ne sont pas dans le bon ordre qui a été institué lors de la création, et elles veulent revenir, elles ont besoin. Nous voyons bien que les plantes, n'est-ce pas, dans leur cycle courant, là, de croissance, ont un devenir. Eh bien, plus en plus de ce devenir, elles cherchent l'optimum, le retour au plan de création. C'est ce que Paul nous explique dans Romains 19, 24. Et tout cela s'accomplira pendant le millénium. D'ailleurs, j'ajoute ceci, c'est que pour nous, chrétiens, le millénium est excessivement intéressant, rempli d'un grand intérêt spirituel. D'abord, pour nous maintenant, pendant que nous sommes encore sur la terre, parce que quand on lit toutes les prophéties qui vont s'accomplir dans l'Ancien Testament, vont s'accomplir pas au cours du millénium, n'est-ce pas, on a une vue sur un monde qui est beaucoup plus proche du nôtre maintenant, beaucoup plus proche. Et cela nous permet déjà de mieux réaliser ce qui s'établit lorsque Dieu règne. Nous avons là, n'est-ce pas, un monde qui n'est pas trop loin du nôtre, n'est pas trop loin, le monde du millénium sur cette terre, pas trop loin du nôtre. Alors, c'est quelque chose qui nous aide beaucoup. Et puis en plus, chers amis, c'est que nous avons une mission à remplir dans le millénium. Bien sûr, nous régnerons avec Christ, Christ règne éternellement, et son épouse règnera avec lui éternellement aussi. Mais dans le millénium, nous avons un travail magnifique. Je n'ai pas le temps de vous le dire maintenant, ça sortirait trop de notre cadre, mais c'est quelque chose de magnifique. Par conséquent, moi, je tiens à l'éternité, bien sûr, mais je tiens aussi au millénium, puisque Dieu a prévu les choses ainsi, n'est-ce pas? Il nous est dit au verset 4, ceci, verset 4 du chapitre 20 qui nous occupe maintenant, « Je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, je vis des âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas. Il n'est parlé ici que des martyrs du règne de l'Antichrist. Pendant que l'Antichrist exerce sa puissance despotique. Et il ne s'agit que de ces martyrs. De ceux qui avaient repoussé l'adoration du dominateur ainsi que sa marque, et avaient alors subi la mort. Ils ressuscitèrent à l'ouverture du règne de Christ, et ils participent avec le pouvoir de juger, c'est-à-dire d'administrer, au règne de Christ. Ils rejoignent donc les saints, ceux qui sont appelés les saints, c'est-à-dire ceux qui constituent l'épouse que nous avons vu descendre dans le chapitre 19, aux côtés, sur des chevaux blancs aussi, aux côtés de leur maître. Ils rejoignent les saints, l'épouse, ils ressuscitent, et naturellement ils ressuscitent dans le corps nouveau, hein, eux aussi. Les autres morts, nous est-il dit, au verset 5 et 6, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Alors là, on ne comprend pas toujours très bien ce passage. Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans, c'est la première résurrection. Alors il y en a qui comprennent, évidemment, c'est la première résurrection après 1000 ans. C'est pas ça. C'est la première résurrection C'est la traduction, peut-être un peu littérale, dans d'autres versions, elle est plus explicite. Cela veut dire, c'est fini la première résurrection. C'est fini. C'est comme dans l'Église catholique, lorsque le prêtre a terminé son office de la messe, il prononce une parole, il dit « Ite missa est », c'est-à-dire « Allez-vous-en », il renvoie les gens, « Allez, missa est, la messe est », littéralement, c'est-à-dire la messe est finie, elle est terminée. Bon, eh bien ça c'est la même chose, la première résurrection est, c'est la première résurrection, elle est terminée. Et cette première résurrection est terminée là avec la résurrection de ces martyrs de la, ce qu'on nomme généralement la grande tribulation. Et cette première résurrection, de quoi est-elle composée? Ah, c'est une chose que l'on ne regarde pas souvent de bien près, d'assez près. La première résurrection est composée de plusieurs choses. Il y a d'abord la grande moisson. Enfin, la partie importante, la grande moisson, qui se situe au moment de l'enlèvement de l'Église. Hein, vous savez que Christ ramènera avec lui les âmes des justes pour qu'ils ressuscitent au niveau de la terre. C'est au niveau de la terre que la résurrection des esprits des justes qui sont dans la cité de Dieu et qui seront ramenés avec Christ, ressuscite. Il ressuscite au niveau de la terre. Et puis il monte avec les vivants, transformés, transmis, il monte vers le Seigneur qui est dans les airs. Ça, c'est la grande moisson. Mais il y a Moïse. Moïse que Dieu a enterré. Et puis on le retrouve après Moïse. Il est sur la montagne de la Transfiguration. Et nous avons dit que Dieu ne donne pas à son fils Jésus-Christ des visions. Jésus-Christ n'a toujours devant lui que des réalités. Hein? Alors donc, Élie et Moïse étaient bien là. D'ailleurs, ils ont un rôle significatif, nous l'avons dit, à jouer. Donc, Moïse a été ressuscité, comme la Bible nous laisse entendre. Alors, lui, la résurrection de Moïse, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le signe. Et puis, nous avons vu aussi que au chapitre 26, verset 47, de Matthieu, nous avons vu que des saints de l'ancienne alliance ressuscitèrent, plusieurs. En grec, je vous ai dit, ça veut dire une foule, n'est-ce pas? Une foule de saints des anciennes dispensations ressuscitent, n'est-ce pas? Et on les voit dans la ville sainte. Et je vous ai dit que si on les voyait à Jérusalem dans la ville sainte, c'est qu'ils étaient destinés à la Jérusalem céleste. Donc, voilà, n'est-ce pas, un certain nombre de ressuscités. Il devait y en avoir beaucoup. Dieu était pressé de recueillir les premiers fruits de la rédemption, les prémices de la rédemption de son fils. C'était donc les prémices. Il y a le signe, il y a les prémices, il y a la moisson. Tout ça, c'est toujours la première résurrection. Et puis, il y a ceux-là qui sont les glanures. Les glanures. Du chapitre 20 de l'Apocalypse. Enfin, les glanures. Et puis, il y a la résurrection du Christ, naturellement. Hein. Alors, ça fait, en somme, cinq plans. Il y a Moïse, il y a la résurrection de Christ. Ça, c'est la puissance, c'est la raison de toute résurrection. C'est le chemin ouvert, n'est-ce pas? Bien sûr. Bon, alors, il y a donc Moïse, il y a Christ, il y a ceux de Matthieu, hein, il y a donc aussi la moisson, et puis les glanures du chapitre 20 de l'Apocalypse. Ça fait cinq plans, et quand on arrive au dernier, là, aux glanures, alors c'est fini la première résurrection. Il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus pour la première résurrection. La Bible nous enseigne en effet qu'il y aura deux résurrections distinctes. La résurrection des justes et celle des injustes. Alors, je ne vais pas avoir tous les textes, je vais vous les citer simplement. Daniel 12, versets 2 et 3. Jean 5, versets 28 à 29. Acte 24, verset 15. Et le verset 5 de notre chapitre 20 nous précise que ces résurrections seront séparées par les 1000 ans. En effet, il est dit, les autres morts, ceux qui ne participent pas à la première résurrection, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Alors, nous allons les retrouver plus loin, ceux-là. D'une manière générale, ceux qui ont part à la première résurrection sont proclamés bienheureux. Ils échappent à la seconde mort, qui n'a plus de pouvoir sur eux, et leur joie sera grande d'être associée au règne de leur bien-aimé Seigneur.